Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 10 juillet 2024. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Quelles sont les nouvelles financières depuis les deux dernières semaines? On a pris une pause de notre balado. Qui ont retenu ton attention?
Bien, d'abord, on va parler des performances pour le mois de juin. Donc, le mois de juin s'est terminé très bien du côté américain. Le Nasdaq en hausse de 6 % le S&P 500 en hausse de 3,6 % Par contre, du côté du TSX, une baisse de 1,4 durant le mois de juin. Donc, vraiment, là, à l'opposé des marchés américains, les titres pétroliers, les banques ont subi aussi, en tout cas, la majorité des banques, là, la Royal a très bien fait, mais les autres, ça a été plus difficile. Donc, des secteurs importants ont connu des ratés. Là, on a une dizaine de jours de fait durant le mois de juillet. Le marché américain continue de bien performer avec des hausses de 3,9 sur le Nasdaq, 2,1 sur le S&P 500. C'est encore les mêmes titres. Hein. On parle encore de Microsoft, Nvidia, Google, Amazon et là même Tesla récemment, là, depuis deux semaines, qui a monté beaucoup. Donc, c'est toujours l'histoire de 5, 6, 7 compagnies qui performent très, très bien. Et le reste du marché tire un peu de la patte. Là, au Canada, ben on n'a pas de Tesla, de Google puis de Nvidia. On est en hausse de 0,8%, donc même pas la moitié du rendement du marché américain. Les taux d'intérêt sont demeurés relativement stables depuis la fin juin. Là. Le Canada, la même chose, là, on est à 3,5 sur les obligations du Canada 10 ans. Aux États-Unis, on avait une petite hausse là, en fin de mois à 4,4. On est redescendu à 4,3. Devise, ça n'a pas beaucoup changé. Le pétrole, toujours autour de 81-82 $ le baril. Donc, plusieurs titres au Canada ont fait des nouveaux sommets dernièrement. Des titres que beaucoup de nos clients ont dans les portefeuilles, Stella Jones, Waste Connection, Manuvie, Dollarama, Savaria, la Banque Royale, entre autres, a fait des nouveaux sommets. D'autres titres continuent de tirer de la patte, la Banque TD, en fait, toutes les banques sauf la Royale, essentiellement, TD, BMO. Le CN aussi, c'est plus difficile. On voit un certain ralentissement de l'économie canadienne. Ben, d'habitude, les compagnies de train là, sont plus rapidement affectées. C'est eux qui bougent les marchandises. Les télécoms, c'est encore pénible. Là. Les TELUS, les BCE, toujours on attend des baisses de taux, on attend des hausses de profitabilité. Donc, on a une opinion favorable à plus long terme. Là. Mais à court terme, c'est comme si des secteurs... T'sais, TELUS n'est pas NVIDIA, donc personne regarde le titre. Donc, c'est un petit peu ce qui fait le tour là, de ce qui s'est passé depuis quelques semaines. En général, le ton demeure positif avec ici et là quelques titres ou quelques secteurs qui continuent de d'offrir de la bonne valeur à long terme, là, mais de souffrir à court terme.
Puis, il faut savoir que si spécifiquement vous ne voyez pas NVIDIA ou Microsoft dans les titres de listés dans votre portefeuille, ils sont souvent détenus dans les fonds mutuels.
Exact. On a une position, un des fonds que beaucoup de clients détient spécifiquement pour toucher ce secteur-là qui est très pesant dans l'intelligence artificielle. Donc, c'est un super bon point, Sarah. Là, on est présent dans ces secteurs-là, même si on ne les détient pas toujours directement.
Ben merci beaucoup, Martin. Durant nos vacances, il y a eu un événement qui s'est passé, dont le débat pour les élections américaines. Et puis, je sens, depuis mon retour aussi, depuis plusieurs conversations avec différents clients, je sens de l'inquiétude pour les élections américaines. Et puis, je comprends toujours quand ça brasse un peu de l'autre côté de la frontière. On sait, on a déjà parlé beaucoup sur notre balado, comment l'autre côté de la frontière et leur politique budgétaire, monétaire, etc., politique de taux d'intérêt peut avoir un impact sur notre économie. Donc, aujourd'hui, on voulait parler d'un sujet vraiment de façon générale. Donc, on ne connaît pas, on ne va pas décortiquer la vision des différents candidats de l'élection américaine sur la politique budgétaire, mais on va parler de politique budgétaire, un sujet qu'on a déjà abordé, mais je pense que le temps est bon.
Toujours bon de le revisiter.
Oui, et propice, étant donné tout ce qui se passe. passe. Puis quand vous allez lire les nouvelles et vous allez en savoir, bon, tel candidat, soit dans les élections américaines ou ici du côté de notre frontière, pense X, Y, Z, mais ça va vous rappeler un peu la petite leçon qu'on va donner aujourd'hui. Fait que je vais te poser la première question. Qu'est-ce que la politique budgétaire? En quoi consiste-t-elle et comment est-ce qu'elle se différencie de la politique monétaire?
Donc, c'est une grosse question, mais que je vais répondre de façon quand même assez succincte. La politique budgétaire, là, c'est géré par le gouvernement. Ça vise à améliorer la production du pays, donc le produit intérieur brut, la croissance économique du pays. Gardons en tête que le gouvernement, ce sont des élus. La politique monétaire, elle, est gérée par la Banque centrale, puis son principal rôle, ben, c'est de maintenir l'inflation sous contrôle. Ben, les dirigeants de la Banque centrale, ils sont nommés. Donc, quand on a un rôle à jouer, il faut comprendre aussi, ben, le gouvernement a un rôle à jouer d'assurer d'améliorer la production du pays. Mais pour le faire, il faut qu'ils soient au pouvoir. Donc, ils doivent être élus. Donc, des fois, il y a un petit peu de conflit d'intérêts, si on veut, entre leur désir d'accéder au pouvoir, puis une fois au pouvoir, leur mandat face à la population, parce que des fois, le mandat réel peut être en conflit avec leur capacité de se faire réélire. Donc mettons ça dans le contexte. Donc, tu sais, quelles sont les différentes composantes? Bon, c'est quoi les outils, là?
Oui, exactement. Qu'est-ce que le gouvernement peut utiliser pour influencer la politique budgétaire?
Bon, d'abord, c'est les dépenses publiques. Donc, quand le gouvernement émet son budget, ben, est-ce qu'il réalise un surplus ou un déficit? Donc, plus on dépense, ben, plus on stimule la croissance économique, plus on injecte de l'argent dans l'économie, plus on cause de l'inflation aussi. Donc, ce qu'on a un petit peu vu dans les dernières années, c'est un peu un conflit entre la Banque centrale qui essaie de réduire l'inflation, ben, puis le gouvernement qui tente de stimuler l'économie, de favoriser les programmes sociaux, puis de se faire réélire aussi. Des fois, ça l'aide d'envoyer quelques chèques pour se faire réélire.
Ça peut être ça ou ça peut être, exemple, aux États-Unis, The Infrastructure Act.
Oui, The Inflation Reduction Act.
C'est ça. J'utilise pas le bon... Ben, qui ouais. était essentiellement...
Un programme d'infrastructure.
Exactement, ouais. Exactement. Où c'était fait vraiment pour... plusieurs raisons, on va dire, mais ça stimule l'économie, une économie que la Banque centrale essayait de ralentir.
Puis on voit toute la dichotomie entre le rôle du gouvernement ou même dans le nom du programme, on le nomme Inflation Reduction Act, donc la loi visant à réduire l'inflation. Puis c'était tout un méga programme de dépenses pour stimuler l'économie qui est exactement le contraire, de réduire l'inflation. Donc, on n'est pas en train de juger de la pertinence et de la qualité du programme. Simplement, ben, on constate que peut-être son nom n'était pas tout à fait en ligne avec son objectif réel. Parce qu'on veut se faire réélire, c'était une bonne idée de parler de réduction de l'inflation au moment où le programme a été lancé. Donc, dans les instruments utilisés, on a parlé donc de dépenses publiques. Le gouvernement peut augmenter son déficit ou réduire son déficit. Plus on réduit le déficit, on retire de l'argent de l'économie, ça ralentit la croissance économique, ça aide l'inflation, mais aussi ça pourrait créer un peu plus de chômage, ça peut créer de la pression sur les ménages. Ça peut aussi donc créer un peu de pression sur nos possibilités de se faire réélire si on fait ça. L'endettement public, donc le niveau d'endettement du pays, c'est donc le gouvernement peut avoir une dette plus ou moins élevée. Et évidemment, les prélèvements fiscaux. Donc, prélèvements fiscaux, là, c'est les impôts et les taxes. Donc, les impôts des particuliers, des entreprises, mais aussi les taxes comme la TPS, par exemple, au Canada.
Ou la taxe sur le gain en capital qui vient d'être changée.
Exact. Super bon point.
Puis, on peut viser une certaine population pour influencer les opinions publiques aussi.
En prenant bien soin d'aller chercher le maximum d'impact économique pour aller chercher l'argent que le gouvernement a besoin pour améliorer sa situation politique, mais sans trop faire de dommages à l'économie, puis sans trop non plus taper sur la masse d'électeurs.
Exact. Et quelles sont les conséquences des fluctuations de la dette gouvernementale sur notre quotidien? Je sais, ça, c'est une grosse question assez large, là.
C'est une grosse question. C'est sûr que plus la dette, elle est élevée, il faut... Donc, il y a le coût du service de la dette. Donc, si on paye plus d'intérêts, c'est de l'argent qui n'est pas disponible pour les programmes sociaux ou pour autres besoins. Donc, ça vient un peu plafonner la croissance économique d'un pays. À un moment donné, si la portion d'intérêt sur la dette devient trop élevée, ça devient un problème. On va juste se mettre un peu dans le contexte. La dette demeure beaucoup moins élevée en pourcentage du PIB qu'elle ne l'était dans les années 90, quand justement le gouvernement, je pense que les libéraux à l'époque, là, Jacques Martin, puis tout ça, ils avaient instauré des mesures d'austérité là, pour réduire la dette. On n'est pas retourné là, à ces niveaux-là. Ça va quand même relativement bien en pourcentage du PIB. Donc, on l'a mentionné, là, plus on a une dette élevée, plus on réduit la marge de manœuvre du gouvernement. Bien, puis si on augmente donc le fardeau pour les générations futures. Donc, tu sais, oui. Cette dette-là doit être gérée. Puis cette dette-là va rester après notre départ. Tu sais, c'est ça la différence entre une dette gouvernementale puis une dette de particulier. Là, tu sais, le gouvernement, il a une durée illimitée de vie. Donc, la dette va toujours devoir se faire rembourser éventuellement ou du moins rapetisser en pourcentage du PIB. Et puis mettons ça, quand on parle de transférer le fardeau aux générations futures, en plus des changements climatiques, si on veut, là, on sait que les générations passées ont transféré un fardeau aux générations futures sur ce point-là. On est en train de leur laisser également une dette peut-être un petit peu plus élevée. Donc, c'est les conséquences, là, c'est, plus on est endetté, c'est pas nécessairement mauvais parce que des fois, il faut s'endetter pour une raison, entre autres, par exemple, la COVID. Le niveau d'endettement a augmenté dans la COVID. Mais si le gouvernement n'avait rien fait, les probabilités, peut-être ça aurait été pire la situation, right? Il y aurait probablement eu plus de pertes d'emploi, plus de misère sur l'ensemble de la population. Donc, des fois, il faut choisir le moindre mal. Je pense que c'est un petit peu le défi du gouvernement. C'est pas toujours d'être pris entre une bonne décision puis une meilleure décision. Des fois, c'est entre une mauvaise décision puis une pire décision.
Puis c'est sûr qu'il y a tout un aspect aussi de la qualité de notre dette. Comment c'est perçu au point de vue mondial?
Et qui détient la dette? Ce qui est très important de comprendre, c'est que, par exemple, les obligations du gouvernement du Canada... Si elles sont détenues par des Canadiens ou des fonds de pension canadiens, c'est beaucoup moins dommageable parce que l'argent demeure au pays. Donc, c'est toujours une dette du gouvernement, mais elle est due à des particuliers ou à des fonds de pension là, qui sont indirectement par des particuliers. Donc, l'intérêt que le gouvernement paye sur sa dette, si elle est reçue par des Canadiens, l'impact est beaucoup moins grand que si, par exemple, notre dette était détenue par des pays étrangers où là, vraiment, on a un exode de capitaux vers d'autres pays. Donc, il y a cet aspect-là.
Puis actuellement, quelle est la situation budgétaire du gouvernement du Canada? Donc, on va rester au Canada.
Ouais.
Et où se dirige-t-on?
Bien, c'est beaucoup moins pire que les gens pourraient le penser. Parmi les pays du G7, on a quand même une position assez enviable. On se retrouve dans le milieu du peloton en termes de classement. Là, on serait troisième sur sept. Mais quand même avec un niveau de dette nette presque le plus bas. C'est quoi la dette nette? Donc, dans la dette totale du gouvernement, les autorités vont calculer la valeur actualisée des obligations de pension. Right? Donc, la sécurité de la vieillesse doit être payée. Donc, il y a certains pays qui font juste le payer à même le budget courant. Donc, c'est une dette qui est très élevée. Dans le cas du Canada, on a quand même on a de l'argent d'investir pour payer ça. Donc, quand on prend la dette nette, on prend la dette totale, incluant les obligations, mais on soustrait de ça les actifs qu'on a d'investir pour éventuellement payer ça. Bien, quand on regarde la dette nette, le Canada est au premier rang des pays du G7. Donc, on est la position la plus enviable. Donc, la situation n'est pas aussi sombre que ça pourrait paraître quand on fait juste regarder le chiffre de dette brut.
C'est sûr, quand on lit les nouvelles et quand on regarde du côté de l'autre côté de la frontière puis parle souvent de ce sujet-là, ça vient se mêler à toute l'histoire. Alors, doit-on être inquiet si le gouvernement s'endette de plus en plus?
Oui, mais pas en dollars absolus, en pourcentage du PIB. Donc, c'est très important de faire abstraction un peu du gros chiffre en dollars bruts, de dire, OK, la dette est rendue à X 1000 milliards de dollars. C'est pas aussi important que la dette est à quel pourcentage du PIB. Et dans cette optique-là, donc, tu t'as mentionné un peu, là, quand on lit dans les journaux, l'objectif des médias, ben, c'est d'attirer notre attention pour vendre de la publicité. Donc, si on fait juste dire que tout va bien, ben, on est moins probable à cliquer. Là. Donc, on va toujours, du côté des médias, du moins, tendre à rendre la nouvelle le plus sensationnelle possible. Donc, il faut peut-être juste un petit peu garder un peu de contexte puis un peu de perspective. La dette en soi n'est pas un mal. La dette doit être en ligne avec le pourcentage du PIB. Et si la dette augmente, mais que la PIB, donc le produit intérieur brut, la richesse totale du pays augmente plus vite que la dette, à ce moment-là, on est en train d'améliorer notre situation. Donc, dans les 3-4 dernières années, ça n'a pas été le cas, principalement en raison de la COVID. Et là, on est en train peut-être de voir tranquillement, pas vite, un retour à une certain équilibre au niveau de la croissance.
Puis il faut penser, puis j'ai vu des nouvelles là-dessus qu'on parlait des la productivité du Canada, puis l'importance d'améliorer notre productivité, ouais. Puis on n'est pas assez productif. Puis quand on pense aux élèves, parce qu'on peut influencer l'autre côté du pourcentage de la dette sur le PIB, et quand on pense aux élections, puis on pense aux différents candidats, puis quels aurait leur impact sur l'économie, sur la bourse. Il faut vraiment penser à c'est quoi leur politique concrètement, c'est quoi leur politique au niveau de politique budgétaire et monétaire qui est un peu influencée la Banque centrale. Donc c'est un gros, on peut dire c'est comme une grosse machine, l'économie, et puis c'est pas géré vraiment en silo.
Puis quand on tire sur une ficelle, donc il y a 1000 ficelles, on tire sur une, c'est pas juste cet item-là qui bouge. En tirant sur une ficelle, on fait bouger plein d'autres items, et là, c'est toutes sortes de ficelles qui se mettent à bouger. Donc ça devient très difficile pour autant les gouvernements que les banques centrales de cibler de façon très précise un objectif, parce que quand ils visent un objectif, ben il éclabousse toutes sortes d'autres choses autour, donc de façon positive ou négative. Donc c'est pas toujours évident.
Puis pour emprunter une phrase de Jean-René, arrêtons de regarder les politiques.
La politique.
Oui.
Et portons attention aux politiques.
Donc, merci Martin, tu le paraphrases beaucoup mieux que moi. Donc pour nos clients et partenaires, si vous avez des questions concernant ce balado, laissez-nous savoir. Si vous êtes inquiet, si vous voulez en discuter. Et puis Martin et moi sommes toujours disponibles pour discuter avec vous de vos besoins, vos questions ou objectifs financiers personnels. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.